En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer, les classes moyennes.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzoui, ce que disent les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole politique avec un politologue. Ce soir, Emmanuel Rivière, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public. Comme on vient de le voir dans le journal, Simone Veil est désormais au Panthéon, au cœur de Paris, là où reposent les grands hommes de l'histoire de France. Avec son époux, elle reposera donc désormais parmi les héros qui ont fait la France plus grande, plus forte, comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, Romain Ouzoui.
Emmanuel Macron, effectivement, qui a prononcé un discours d'un peu plus de 25 minutes depuis le parvis du Panthéon. Ton extrêmement solennel pour l'occasion, il est revenu sur la vie de combat de Simone Veil et le premier de ses combats, la justice pour les femmes, cette phrase qui a constitué l'anaphore du discours d'Emmanuel Macron, on l'écoute.
Justice pour les femmes détenues dans des conditions indignes, qu'elle s'efforça quand elle était magistrate d'améliorer. Justice pour les femmes, leur indépendance financière, leur autonomie conjugale, leur égalité dans l'autorité parentale. Justice pour que leurs qualités et talents soient reconnus et utilisés dans tous les domaines. Pour les femmes meurtries dans leur chair, dans leur âme, par les faiseuses d'anges. Pour les femmes qui devaient cacher leur détresse ou leur honte et qu'elle arracha à leur souffrance en portant avec une force admirable le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse à la demande du président Valéry Giscard d'Estaing et avec le soutien du Premier ministre Jacques Chirac.
Voilà, Simone Veil donc faisant son entrée au Panthéon. Décision de tous les Français, a dit Emmanuel Macron. Cinquième femme à être inhumée dans ce lieu chargé d'histoire de France. Seulement la cinquième femme, a dit ce dimanche l'ancienne ministre Ségolène Royal.
Simone Veil elle-même, à une époque, avait signé une pétition pour que des femmes rentrent au Panthéon. Aujourd'hui, elles sont cinq, il y a 75 hommes. Donc il y a encore une marge de progression.
Vous verriez quelle femme vous entrez au Panthéon, par exemple ?
On pourrait mettre Olympe de Gouges, par exemple, on pourrait mettre Louise Michel, on pourrait mettre Simone de Beauvoir, c'est-à-dire des femmes dont le combat pour les femmes est contre toutes les formes de discrimination et contre toutes les formes de subordination ont été essentielles et cruciales. Mais comme c'était considéré comme un combat subalterne, elles n'ont jamais été reconnues en tant que telles. Il est temps que ce soit le cas.
Et voilà, l'appel de Ségolène Royal dans Dimanche en politique sur France 3.
Alors, les nombreuses personnes qui étaient présentes au Panthéon étaient émues. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'empathie pour Simone Veil. Emmanuel Rivière, vous avez pu mesurer à de nombreuses reprises sa grande popularité.
Oui, Simone Veil faisait partie des personnalités préférées des Français pendant des années et des années, y compris après qu'elle soit complètement sortie de la politique. C'était une figure de référente pour toutes les raisons que je ne vais pas rappeler, qui ont été évoquées aujourd'hui, mais à la fois son combat pour les femmes, et notamment la loi de l'égalisation de l'avortement, dans une adversité qui était d'une férocité parfois incroyable, et puis son passé de victime de l'antisémitisme, de rescapée des camps, et elle incarnait quelque chose de très fort pour ce pays qui se cherche des figures de référence. Pour tout un tas de raisons, la France est un petit peu déboussolée, a besoin de points de repère, et elle se cherche des points de repère dans des héros du temps présent, comme Arnaud Beltrame, ou plus anciens, comme Simone Veil. Et dans un esprit aussi de réconciliation, c'est important, je crois, dans l'incarnation que représentait Simone Veil, l'idée que après la guerre, elle a aussi incarné le soutien à ceux qui s'étaient bien conduits pendant la guerre, et plus qu'un esprit de revanche.
C'était également, Simone Veil, une femme politique, et une manière de faire de la politique autrement.
Sans doute, et d'ailleurs, c'est une femme qui aura marqué une étape dans la manière de faire la politique, puisque elle a montré une grande détermination, un grand courage dans l'adversité. Et je pense que les Français la voyaient non pas comme ces modèles de femmes politiques qui sont finalement encore plus dominatrices que des hommes, parce qu'il faut être plus dur encore pour y arriver, mais ce qu'ils parfois mettent derrière la notion de féminité en politique, une forme de bienveillance, d'attention portée aux autres. Alors, ça n'a pas toujours été concrétisée, mais c'est vrai que Simone Veil a eu dans ses parcours, et notamment aux affaires sociales, l'occasion d'incarner cela. Donc ça restera, je pense, un modèle de référence de ce que peut être une femme en politique. En tout cas, tant qu'on se posera la question de savoir si les femmes en politique, c'est différent des hommes en politique, qu'un jour on oubliera peut-être cette question.
Une femme politique et non pas une politicienne, avec Simone Veil, donc, qui repose avec son époux, désormais, au Panthéon. Dans un an, les Européens éliront leur Parlement. Cette élection qui d'ordinaire ne passionne pas les foules, eh bien, il en est déjà question à cause de la crise migratoire qui fissure l'Union Européenne. Avant-hier, il y a eu cet accord conclu dans la douleur à Bruxelles, prévoyant de créer des centres en Europe, mais qui soulève de nombreuses questions et de sévères critiques de la part d'ONG. Le président français qui veut montrer le cap déclare finalement que la France n'ouvrira pas de centre d'accueil pour les migrants qui débarquent en Europe, car elle n'est pas un pays de première arrivée. De ce que doit faire l'Europe et la France dans l'Europe, il en était beaucoup question au Conseil national du Parti Les Républicains également. Ce Parlement du Parti de droite réunissait, Romain, quelques 600 personnes au Palais de l'Europe, justement, de Menton.
Oui, l'occasion pour le patron du parti, Laurent Wauquiez, d'égratigner cet accord, justement, qui a été signé à Bruxelles. Accord de façade, a-t-il dit. Mais l'Europe, au cœur des divisions qui actuellement minent les Républicains, en témoigne cette sortie de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, l'une des voix dissonantes, et qui s'est désolidarisée de la vision eurosceptique de Laurent Wauquiez.
Cette difficulté de l'Europe, eh bien, il y a de la tentation de faire table rase, de dire on arrête tout, on se replie, on recommence tout, on fait un nouveau traité, on se met à 6, on se met à 12. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation est beaucoup trop grave pour ça. Il faut sauver cette Europe. Pas de table rase.
Voilà, message à peine voilé à la ligne de Laurent Wauquiez. Alors finalement, le patron du parti a sauvé les meubles puisqu'il est parvenu à faire adopter une déclaration de principe sur l'Europe. Déclaration extrêmement consensuelle pour ne fâcher personne. Mais pour lui, l'essentiel est là. Il peut afficher le visage d'une famille politique unie. Laurent Wauquiez.
Sauver l'Europe, c'est mettre toute son énergie non à nier les réalités, mais à assumer les bases d'une refondation. C'est cette démarche qui permet le rassemblement aujourd'hui de la famille des Républicains. La nouvelle droite sera unie sur l'Europe parce que nous sommes la seule famille politique à être capable aujourd'hui, à la différence du Front National et à la différence d'En Marche, de concilier les deux mouvements dont l'Europe a besoin, la lucidité de dénoncer l'impasse dans laquelle l'Europe s'est enfermée et la volonté de redonner un souffle à la construction européenne. En Marche est dans la naïveté, le Front National est dans l'abandon. Nous seuls voulons porter cette refondation de l'Union européenne.
Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, lors du Conseil national du parti. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Menton, Anne Souhaitemont.
Et puis il y a ce sondage d'Odoxa qui montre que 6 Français sur 10 estiment que la France accueille trop de migrants. Emmanuel Rivière, directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public, est-ce que vous avez sondé l'opinion publique française sur ces questions, sur l'Europe, sur les migrants, la question migratoire?
L'opinion publique française et l'opinion publique européenne d'ailleurs, puisque c'est une question à l'échelle européenne. La question migratoire, dans les enquêtes Eurobaromètre faites pour la Commission européenne, lorsque les gens se prononcent sur les principaux sujets qu'ils assignent à l'Europe, en gros ce dont elle va s'occuper en priorité, c'est l'immigration, qui arrive en tête dans quasiment tous les pays, dont la France, et ça a émergé surtout au moment de la crise migratoire, et notamment la crise des réfugiés de 2015. Mais pour revenir à la France, c'est vrai qu'on est au cœur, là, d'une préoccupation importante. Pas la première à l'échelle du pays, hein. Ça reste les questions relatives au chômage, à la croissance économique, aux revenus, etc. Mais il y a une interrogation, une inquiétude majeure sur ces questions-là, très liée à la question du nombre d'ailleurs. C'est comme ça que les gens voient les choses, avec un peu d'ambiguïté, parce que dans le même sondage que vous citiez, on voit aussi qu'il y a la moitié des gens qui disent qu'il faudrait sanctionner les pays qui refusent d'accueillir des migrants. Ce qui veut dire qu'en France, on n'est pas sur le refus d'un principe d'accueil, mais avec l'idée qu'on aurait atteint une forme de saturation. Et parfois, on a vraiment analysé ça un peu dans une sorte de mélange des genres. C'est-à-dire que les gens voient dans des signes comme le port du voile un signe de saturation de l'immigration, alors que il y a beaucoup de femmes françaises qui portent le voile aujourd'hui.
Et alors qu'il y a finalement très peu de migrants hébergés en France, à la différence de l'Allemagne. 1 million, nous, c'est quelques milliers, c'est pas grand-chose.
C'est d'abord, comme je le disais, les gens amalgament l'immigration, la crise des réfugiés aujourd'hui, et les populations d'origine immigrée, dont la présence continue à poser problème pour un certain nombre de Français. Puis les gens ont en tête des images, les images de Calais ou de manière sempiternelle, on ne trouve pas de solution. Les images de centaines de tentes sous le métro aérien, ces images-là, donc on n'est pas dans la rationalité. Et beaucoup de gens se disent qu'il y a un problème avec le nombre de migrants, quand bien même, effectivement, les chiffres disent « mais non, la France n'est pas en surcapacité d'accueil ».
Est-ce que vous diriez qu'il y a un réflexe identitaire qui est en train, ou non, de s'installer en France ?
Alors, ça c'est une vraie question, et une fois de plus, pas uniquement en France, hein, et notamment c'est très fort à l'est de l'Europe. Derrière la question de la crise migratoire, il y a une question relative à l'identité et ce que signifie appartenir à cette maison commune qu'est l'Union européenne. Et la question identitaire, elle est à l'origine aussi de ce mélange entre les immigrés d'aujourd'hui et les petits-enfants, parfois arrière-petits-enfants, des immigrés d'hier. C'est en gros, qu'est-ce qui fait encore société aujourd'hui ? Et la France est un pays où les gens se disent, mais finalement, ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous rassemble. Et donc, quand on se pose des questions-là, effectivement, on est tenté de fermer portes et fenêtres.
Donc, la question migratoire, c'est une question européenne, française, mais aussi européenne. Est-ce qu'il y a un rejet de l'Europe ou une volonté claire et nette de voir la France renforcer son pouvoir au détriment de Bruxelles, sur cette question comme sur d'autres ?
Et sur cette question comme sur d'autres, la réponse c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, ce qu'on demande, encore une fois, dans des enquêtes Eurobaromètre, si les Français pensent que leur pays a bénéficié de leur appartenance à l'Union européenne, si c'est une bonne chose que d'appartenir à l'Europe, ils vous disent oui à 60%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont des doutes. En revanche, est-ce qu'ils se satisfont de la manière dont l'Europe fonctionne aujourd'hui? Non. Et beaucoup en attendent autre chose. Et donc c'est là où ça colle pas forcément entre un débat politique qu'on finit toujours par organiser de manière binaire, pour ou contre l'Europe, là où les Français se disent pour certains effectivement qu'il faudrait revenir à des formes de souveraineté et se protéger de cette Europe, où d'autres disent ben non, en fait l'Europe doit être notre modèle, notre aspiration, et doit un peu faire évoluer la France pour l'adapter à l'Europe, puis les troisièmes disent non, en fait il faut adapter le modèle et changer de modèle pour avoir une Europe qui fonctionne différemment. Et c'est ce débat-là qu'on devrait avoir l'année prochaine, si tout va bien.
Justement, j'allais vous demander si finalement ces élections européennes de l'année prochaine, le thème principal de la campagne et la ligne de fracture sera la question migratoire.
Ça pourrait l'être aujourd'hui. Ça, c'est un sujet de préoccupation qui a un peu marqué les dernières élections européennes. C'est cependant un peu difficile de dire à l'avance, et un an à l'avance, que ce sera le thème d'une élection. En 2014, c'était un peu ça. C'était beaucoup aussi le rejet de la politique et le rejet des systèmes politiques. Aujourd'hui, l'Europe, elle est confrontée à ce problème migratoire. Mais je pense qu'elle est confrontée à un autre problème, qui est quel est le projet européen. C'est ça qui pourrait être aussi le sujet. Parce que, au fond, c'est pas par hasard que l'Europe s'était invitée au débat présidentiel en filigrane de quasiment toutes les discussions. Je pense que les gens savent qu'on y est. Et très peu de Français, notamment, pensent que ce sera qu'il faille sortir de l'Europe ou que ce ne sera pas notre maison commune. Donc, la question d'y trouver les solutions, ça peut être par rapport à un sujet, et c'est la crise migratoire, mais je pense que c'est le fonctionnement de l'Europe qui potentiellement pourrait être un sujet important.
Est-ce que tout cela ne fait pas le lit des discours de deux personnes qui sont un peu en retrait en ce moment, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ?
Et plutôt sur le même créneau. Mais c'est certain que de toute façon, ce qui paye en politique en ce moment, c'est d'avoir des positions très claires. Alors pour le coup, Marine Le Pen a une position relativement claire sur l'Europe. Mais rappelons-nous aussi qu'elle a précisément échoué sur la question européenne. C'est d'avoir cru que l'euro, la sortie de l'euro, est en gros une espèce de tactique qui consistait à surfer sur le Brexit, serait une aubaine qu'elle a probablement raté sa campagne. Donc effectivement, le Front National aura plutôt tendance à utiliser l'immigration. Les Républicains seraient un petit peu plus compliqués parce que il y a quand même dans la droite d'aujourd'hui une dimension libérale, donc ouverte sur le monde, qui s'accommoderait mal que l'on revienne en arrière sur un certain nombre des acquis européens.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. La popularité d'Emmanuel Macron et celle d'Édouard Philippe s'effondrent pour atteindre leur plus bas niveau depuis leur entrée en fonction. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa diffusé mardi dernier. Moins 5 points pour le président de la République, moins 8 pour le Premier ministre. L'un de ces Français critique à l'endroit du président de la République, c'est Jean-Louis Borloo, qui l'étrille littéralement. Il n'a pas digéré que son rapport sur les banlieues soit directement enterré par le chef de l'État, Romain.
Oui, écoutez plutôt ce qu'a dit l'ancien ministre de la Ville cette semaine. C'était lors d'une réunion à Valenciennes, ville du Nord, dont il a été le maire. Jean-Louis Borloo jouant sur les images pour mieux attaquer.
Il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation culinaire désagréable où le gratin se sépare des nouilles. Ça n'a jamais fait un grand plat. Et c'est une erreur majeure. Je le dis très, très sérieusement. C'est pas sujet gouvernement de tel ou tel, hein. C'est un problème d'une monarchie qui, en fait, a plus de moyens. Et ce qui me dérange, c'est que les quelques moyens qu'elle a, elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ceux qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite.
Alors le lendemain, Jean-Louis Borloo a voulu minimiser son coup de sang. Dans les colonnes du Figaro, il a déclaré que ses propos, je cite, « ne s'adressaient pas au gouvernement et au président », dont il a été, on le rappelle, l'un des soutiens. Malgré tout, ses propos ne retombent pas. 4 jours après la sortie de Jean-Louis Borloo, était encore commenté ce dimanche par Ségolène Royal. Elle s'est interrogée sur les raisons qui, il y a quelques semaines, ont poussé Emmanuel Macron à rejeter le rapport de l'ancien ministre sur les banlieues.
Ce que je ne comprends pas, surtout, c'est pourquoi on a demandé un rapport sur les banlieues à Jean-Louis Borloo pour ensuite ne rien en faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel dysfonctionnement a eu lieu au niveau de l'État et des institutions?
Peut-être que le contenu du rapport ne convenait pas au président?
Je pense qu'il y a eu, un dysfonctionnement plus important. Mais c'est vrai que ce n'est jamais bon d'humilier quelqu'un, en plus qui avait fait ses preuves, qui avait déjà agi dans les banlieues. Donc je pense que ce qu'il dit aussi relève peut-être de cette amertume. Donc,
amertume de Jean-Louis Borloo envers Emmanuel Macron, selon Ségolène Royal, et les critiques que l'on a entendues dans la bouche de Jean-Louis Borloo, hein, visant les élites. Ces critiques ont trouvé un écho chez un autre ancien ministre, aujourd'hui président de la région des Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand, qui a fustigé une expression chère à Emmanuel Macron, l'expression « promis de cordée ».
Le coup des premiers de cordée, non mais ça rime à quoi? Ça rime à rien, ça. On oublie quoi, les derniers de cordée? Puis on oublie les milieux de cordée. Ça ne marche pas. C'est pas ça la société française. Et la stratégie aujourd'hui du président de la République, c'est plutôt de dire si ceux qui vont bien vont encore mieux, ça réglera tout. Mais pas du tout, mais jamais de la vie. Et on oublie en plus ceux qui sont les plus nombreux, les milieux de cordée. Ceux qui bossent et qui savent pertinemment, eux, qu'ils peuvent compter sur personne parce qu'ils sont jamais aidés.
Voilà, un autre coup de colère, celui de Xavier Bertrand, c'était sur BFM TV.
Emmanuel Rivière, à propos de ce trou d'air qui secoue Emmanuel Macron, diriez-vous qu'il perd la main sur le plan de la communication alors qu'il était affûté en la matière? Il accumule les mauvais mots. Le dernier en date, c'est quand il a présenté au pape son ministre Jean-Yves Le Drian en disant que les Bretons, c'est la mafia française. Est-ce qu'il perd la main à cause de ces formules à l'emporte-pièce? Puis il y en a bien d'autres, hein, le pognon des dingues, pognon de dingue, etc. etc.
Je pense... Pour le coup, le pognon de dingue est probablement d'impact plus important que
la mafia des Bretons.
La petite gaffe sur la mafia des Bretons, parce que ça renvoie en fait à ce reproche fait à Emmanuel Macron d'avoir plus en tête finalement les Français qui réussissent le mieux et de peut-être donner le sentiment de ne pas éprouver assez de compassion, de bienveillance à l'égard de ceux qui sont moins favorisés. Et on reproduit finalement quelque chose auquel on est habitué, c'est-à-dire que une espèce de reproche initial de péché originel d'un président au début de son quinquennat qui lui colle un petit peu à la peau et probablement quand il exprime l'idée qu'il y a beaucoup trop d'argent dans la protection sociale et que cet argent ne va pas là où il devrait être et que certains peut-être même iraient jusqu'à en abuser. Franchement, il y a beaucoup de Français qui le pensent aussi. Sauf que il s'est peu à peu privé le droit de le dire lui et le dire de cette manière-là. Cela étant, le trou d'air est probablement au-delà de l'enjeu de communication. Parce que je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a d'abord l'accumulation de cela qui va, dans un contexte où par ailleurs il y a un conflit social important, conforter les gens qui sont des électeurs de gauche qui étaient déçus ou méfiants à l'égard d'Emmanuel Macron, qu'effectivement ce n'est pas leur président, mais il y a sans doute aussi déjà une déception aussi des électeurs, enfin des gens qui ont cru en lui, qui viennent plutôt des Républicains, et qui se disent « mais il est là depuis un an, et finalement, qu'est-ce qui a changé pour moi ?» sans doute pas grand chose, et ça pose un problème. Donc il y aura un rendez-vous pour Emmanuel Macron, c'est celui de la capacité à prouver que ces réformes à un moment auront produit les effets attendus par cela.
Merci Emmanuel Rivière pour ces commentaires, directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public, bel été à vous, ainsi qu'à vous tous. Merci. Qui nous écoutez fidèlement tous les dimanches, car Dimanche Politique s'interrompt pour les deux mois qui viennent.